Thomas Leroux, chercheur au CNRS, enseignant, a dirigé une exposition et des conférences sur les paris de l'industrie, jeu de mots. Voilà pourquoi on est là ce soir.
Merci beaucoup pour cette invitation qui m'a donné l'occasion de découvrir cette magnifique bibliothèque que je ne connaissais pas du tout. De faire connaissance. Donc on avait discuté plusieurs sujets en fait ensemble, hein, soit Paris industriel, soit les pollutions, puisque ça a été mon objet de recherche principal pendant une bonne quinzaine d'années, je dirais, enfin, pollution, risque aussi. Et actuellement je travaille plus particulièrement sur les vaches laitières, et notamment les vaches laitières à Paris, mais pas seulement, sur le début de l'industrie laitière, après la fin du XVIIIe siècle, hein, parce que avant on ne produit pas de lait. C'est seulement les vaches sont là pour produire des veaux, en fait, du bœuf après. Et le lait, c'est vraiment du milieu rural en autoconsommation. Et puis, évidemment, il y a certaines régions où on produit du beurre et du fromage. Mais le lait à boire ne se boit pas comme ça, en fait. Il n'est pas du tout commercialisé. Donc, actuellement, je travaille sur cette émergence du lait comme boisson. Et ça se passe beaucoup à Paris, avec notamment des étables urbaines en plein cœur de Paris. 1800, il y a 5000 vaches dans Paris. 5000 vaches laitières. J'ai écrit un petit article là-dessus qui est en ligne, en texte intégral, dans la revue Études Rurales, si ça vous intéresse. Mais j'aurais pu parler de ça, mais je reviens ici, là, vous parlez de Paris, ville industrielle, donc c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé il y a plus 10-15 ans, on va dire. Donc j'ai fait effectivement une exposition, donc les paris de l'industrie. C'était à la suite de mes travaux de thèse sur les pollutions industrielles. Je me rendais compte que l'industrie était... pas mal étudié en France, hein, la première industrialisation, mais surtout pour des villes industrielles, on va dire Roubaix, Tourcoing, Le Creusot, etc. Mais Paris, ville industrielle, finalement, c'était assez peu abordé. Et mes travaux m'avaient montré que vraiment Paris, c'était la capitale industrielle du 19e siècle, en fait. Hein. C'est aussi un effet de taille, hein, c'est la ville la plus peuplée de loin en France, mais c'est aussi en proportion, hein, une ville où il y a énormément d'ouvriers. Hein. C'est pas un hasard si cette bibliothèque ici s'est créée en 1862, je crois, c'est ça ?
Oui, 62.
Ouais, donc aussi sur un fondement d'éducation populaire, hein, avec la volonté d'instruire les ouvriers et puis de leur donner la capacité de trouver des livres de près. Donc c'est pas étonnant que ce soit à Paris que ça ait eu lieu, c'est parce que ça a été vraiment une grande ville industrielle. Au risque de la coexistence, une coexistence qui pose des problèmes, hein, pour des questions d'hygiène publique, de risque, de nuisance, pour les pollutions, pour la coexistence aussi avec beaucoup de forges, des fourneaux, des machines à vapeur qui explosent. Donc avec une présence en fait qui a posé aussi des problèmes de santé publique et aussi de risque pour les citadins en fait. Au-delà des risques d'une population ouvrière qui pouvait apporter la révolution, les barricades, 1830-1848, la commune, etc., qui a beaucoup inquiété les autorités, bien plus que le risque de santé publique en réalité. Alors l'image que vous avez là, ça ne vient pas de Paris, ceci dit, mais comme je la trouve très belle, je l'ai mise, c'est une usine à gaz de Londres en 1821. Mais c'était pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance des atmosphères de travail. Bien sûr, là, c'est très stylisé, mais... je l'aime beaucoup parce qu'on voit le contremaître en fond là, qui dirige avec sa baguette et puis sans doute son assistant là, qui dirige et les ouvriers qui sont face au fourneau où le but c'est de distiller de la houille, du charbon de terre pour produire un gaz. Et ce gaz qui va à travers un réseau de canalisation va alimenter des rues et ensuite des logements pour l'éclairage. Tout ceci avant l'électricité et après l'éclairage par la chandelle essentiellement, qui, comme vous le savez sans doute, est issu du suif des bovins et des ovins, qui émettait une odeur aussi pas très agréable et qui, avec un faible pouvoir d'éclairage. Donc ce dont je vais vous parler, c'est plutôt du Paris industriel 19e siècle, quand Paris est vraiment la capitale industrielle. Alors elle le devient surtout après 1850, hein, où là, on a vraiment une concentration ouvrière très très importante. Et donc, je vais vous montrer comment, en fait, Paris est une ville plutôt politique, religieuse, intellectuelle, commerçante, bien sûr. Comment cette ville, plutôt des élites, est devenue une ville industrieuse, où on a fabriqué énormément de choses. Et là, je me promène un peu dans le quartier. Là, je vois les petits jardins à côté. Et derrière, il y a une grande halle, hein, en fait, qui a dû être construite au début du XXe siècle. Je ne sais pas à quoi ça sert de nos jours, mais ces ateliers dans le Marais, dans le 11e arrondissement, dans le 19e, enfin, même dans les quartiers plutôt bourgeois ou d'habitation, on en trouve encore de nos jours. Donc c'est un peu cette histoire que je vais vous raconter et donc vous montrer comment ça a basculé, surtout au début du 19e siècle, comment à un moment donné les autorités parisiennes et nationales se sont dit oui, c'est à Paris qu'il faut produire et il y a de bonnes raisons pour ça. Première étape, un peu les fondations, le moment de la première industrialisation, ce qu'on appelle la première révolution industrielle, même si nous, chez les historiens, on ne parle plus de première révolution industrielle, on parle d'industrialisation ou de première industrialisation, qui repose essentiellement sur le textile, la métallurgie, ensuite par le relais de la machine à vapeur, mais surtout après 1820, et qui lance vraiment nos civilisations. On est aujourd'hui dans un monde hyper industriel, où on produit des quantités faramineuses de produits, qui nous assure du confort beaucoup, mais cette production a beaucoup de contreparties à l'origine du dérèglement climatique et d'autres choses. Avant l'industrialisation de masse, Paris, donc c'est surtout une ville très commerçante, c'est une ville où il y a une concentration de religieux, d'universités, de personnel politique très important, c'est le siège du gouvernement qui concentre tous les pouvoirs. Donc on trouve assez peu de vraiment d'usines, mais on en trouve quand même. Il y a une multitude d'ateliers et de lieux de fabrication. Parmi ces lieux, il y a quelques exemples. Il y a la célèbre manufacture des Gobelins. Là, c'est une illustration du peintre de Machy, peinturerie des Gobelins sur le long de la rivière de Bièvre, tout près de la manufacture des Gobelins, enfin l'ancienne, monument historique aujourd'hui, rue Croulebard et avenue des Gobelins. Exemple parmi d'autres, mais je vous montrais cet immeuble d'habitation ici, enfin cet immeuble qui a été conçu sans doute pour une habitation qui a ensuite été occupée par une manufacture de papier peint, où on voit les processus de fabrication à tous les étages. Il s'agissait d'imprimer sur du papier des motifs. Donc ça, c'est en 1784, c'est une illustration d'un immeuble de fabrication. Donc, il existe pas mal d'ateliers à Paris, surtout des ateliers de finition pour des objets plutôt haut de gamme qui se vendent assez cher. De nos jours, quand on trouve des activités de production à Paris, c'est encore pire encore aujourd'hui, c'est vraiment du très très haut de gamme, sur des ateliers vraiment qui sont dans la dernière phase d'élaboration des produits. Alors, ce qui se passe, c'est que, au milieu du XVIIIe siècle, il n'y a pas encore ce pacte social qui considère que l'industrie est bonne pour la prospérité générale des sociétés. Même la fabrication technique, elle est parfois vue avec un peu de réticence, de mépris pour le travail manuel. Et quand je dis ça, c'est un regard d'élite, souvent, mais c'est ce qu'on trouve dans les écrits. Et un peu de réticence sur la manipulation, sur la transformation, sur le côté artificiel de fabriquer des produits, dans un cadre où on est encore dans des cosmologies un peu religieuses, où il y a la nature, il y a Dieu, et il ne faut pas forcément transformer tout ce que Dieu a donné à l'homme, juste pour assurer ses besoins. Il y a cette notion de besoin qui est très importante et aussi la notion de ménagement, de ménager la nature, de ménager ce qui nous entoure pour ajuster simplement les ressources aux besoins et ne pas rentrer dans l'artifice ou dans le luxe ou dans les profits qui seraient immoraux en fait. Beaucoup de questions religieuses mais aussi beaucoup de la question de la morale, du juste prix. Ça, les historiens ont beaucoup travaillé sur la question du juste prix au Moyen-Âge, à l'époque moderne et comment ça a été bousculé par le capitalisme naissant en fait. Et dans ce cadre-là, mais aussi dans un autre cadre, un cadre médical, qui considère que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les mauvaises odeurs sont susceptibles de propager des éléments pathogènes, les miasmes, comme on les appelait à l'époque. Cette médecine, elle est assez dominante, c'est une médecine néo-hippocratique, du médecin grec Hippocrate, qui considérait que les aliments qu'on boit, qu'on mange, qu'on respire, sont vraiment essentiels à la bonne santé, et c'est juste. Dans ce cadre-là, les émanations des fabriques étaient perçues comme des menaces pour la santé publique. Et comme c'est quelque chose pour la santé publique, c'est des choses contre lesquelles il fallait agir d'un point de vue des autorités très fermement, très très strictement, y compris en poursuivant des artisans, des industriels qui étaient trop proches des habitations et donc qui gênaient les habitations, y compris de les poursuivre dans ce qu'on appellerait des cours pénales de nos jours. La distinction civile-pénale, elle se réalise vraiment sous la Révolution française. Avant, les deux sont un peu mêlés, elles sont un peu distinctes, mais un peu mêlées aussi. Et donc, on trouve pas mal de procès d'artisans qui sont poursuivis pour infraction et danger à la santé publique. Et donc, on les retrouve dans des chambres de police ou dans des cours criminels et parfois mis en prison, offense à la santé publique. Alors tout ça s'est regroupé dans des codes normatifs, hein, par exemple le traité de la police que vous avez là, de Delamare, du début du XVIIIe siècle, qui est un code jurisprudentiel, hein, encyclopédique, fait plusieurs milliers de pages, copié partout en Europe aussi, hein, la police de Paris, elle est perçue comme vraiment une police assez exceptionnelle. Et dans ce traité, le commissaire de police de Delamare, il a tout un chapitre qui fait plusieurs dizaines de pages, hein, qui s'appelle « Éloigner du milieu des villes les professions qui peuvent infecter l'air ». Donc en fait, selon ce précepte, il n'est pas autorisé à un fabricant de fonctionner à proximité d'une habitation s'il dégage des vapeurs qui sont qualifiées d'insalubres pour l'époque ou des rejets qui peuvent corrompre l'eau. On parle de corruption d'eau parce que ça contamine les puits. On est aussi dans une société où les populations locales s'approvisionnent sur place. En fait, hein, elles ne vont pas chercher à des milliers de kilomètres comme nous, de nos jours quasiment, de quoi boire, de quoi manger. C'est-à-dire que toutes les ressources vitales sont sur place, que ce soit le potager du coin ou l'eau qu'on puise du puits dans la cour de son habitation. Il faut donc que l'eau, les aliments soient extrêmement non altérés. De ce fait, il était absolument indispensable d'éloigner les lieux de fabrication des lieux de vie, parce que ça pouvait donc contaminer vraiment les communautés locales. Et puis aussi une période où on est très vulnérable, hein. Il n'y a pas des multiples façons de s'approvisionner comme de nos jours. Il faut absolument que tout soit sain de façon très très proche. En dehors de cet aspect normatif, on reprend une jurisprudence qui vient du Moyen-Âge, hein. Au XVIIIe siècle, la police, donc l'administration des choses publiques, a aussi mis en place des enquêtes préventives qui existaient déjà, mais elles étaient moins normalisées. Et à partir du début du XVIIIe siècle, il y a ces enquêtes de commodo et incommodo qui sont mises en place pour les établissements de fabrication. Alors ces enquêtes de commodo et incommodo existaient depuis bien longtemps, mais elles concernaient surtout les problèmes d'aliénation de biens publics ou d'aliénation de communautés ecclésiastiques. Pour, par exemple, s'il y a une vente d'une terre, il y avait des enquêtes de commodo et incommodo pour voir si ça aliénait pas la communauté religieuse ou le bien public. Et elles sont étendues donc à ces lieux de fabrication pour des motifs de santé publique, pour bien préserver les habitants des pollutions. Commodo et incommodo, c'est un commode ou incommode, hein. La catégorie juridique qui est utilisée, c'est celle de nuisance, sachant que la nuisance, c'est vraiment une catégorie juridique qui est opératoire pour poursuivre quelqu'un dans des chambres de justice, hein. Le mot pollution, c'est quelque chose qui relève plus de la science, des mesures, et qui n'est pas utilisé à l'époque. Ensuite, de nos jours, on parle plus de pollution, mais ça, c'est un phénomène du 19e siècle qui a fait passer les processus d'altération du milieu, de la nuisance, c'est-à-dire une catégorie juridique, mais surtout sociale, puisque c'est des questions d'interaction entre individus, vers la pollution, qui était juste une mesure scientifique, en laissant de côté toutes les interactions entre les individus. Donc même le changement de mot nous montre aussi un changement d'appréhension du phénomène, une appréhension plutôt sociale et médicale au départ, pollution plutôt une appréhension scientifique, enfin chimique ou physique. Troisième aspect, après la norme et la prévention de cette police d'Ancien Régime, qui finalement a freiné l'industrialisation en France pendant longtemps, ça a été de réprimer. Et là, comme bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais les polices faisaient des rondes de police, hein, dans le quartier. Les commissaires de police étaient obligés d'habiter dans le quartier où ils agissaient. Ils partageaient les intérêts des habitants, pas comme de nos jours. Et en plus, c'est un des aspects de l'Ancien Régime, mais ils étaient policiers à vie, c'était un office. Un office, donc, ils n'étaient pas nommés 3 ans à un endroit, puis mutés à un autre endroit, etc. Ils faisaient leur carrière dans leur quartier. Parfois, c'était 50 ans, 60 ans. Il y a des commissaires de police qui devenaient commissaires à 25 ans et qui mouraient à 80 ans, c'était à vie, hein. Donc, des commissaires de police très bien implantés dans leur quartier, 48 commissaires de police dans Paris, et puis évidemment ils ont des inspecteurs à leur service, du personnel, et qui pouvaient donc poursuivre les contrevenants en chambre de police. Et là, bon, j'ai ressorti un extrait d'un de ces nombreux, plein de rapports de police sur des artisans qui sont installés sans autorisation, ça arrive, ou qui sont installés avec autorisation, mais après quelques mois ou quelques années de fonctionnement, on se rend compte que l'autorisation ne permettait pas de protéger les habitants assez. Donc ça arrive aussi de voir des artisans condamnés malgré une autorisation. Parce que de toute façon, il y a le présupposé qu'ils ne doivent pas gêner le voisinage. L'extrait, c'est un rapport d'un commissaire de police à la chambre de police. Alors là, cet extrait concerne justement une manufacture de papier peint, telle qu'on l'a vu tout à l'heure. C'est pas la même. C'est une manufacture de papier peint tout près du palais d'Élysée actuellement, du faubourg Saint-Honoré, 1774. Et là, il dit que ceux qui, par la profession, emploient des denrées, des drogues, donc les drogues, c'est des produits en fait, hein, qui peuvent infecter l'air et nuire à la santé du voisinage, soient tenus de se retirer hors les faubourgs dans des lieux éloignés pour exercer leur profession. Donc même si ces artisans ont eu l'autorisation de s'implanter à tel ou tel endroit, si on se rend compte que ça dérange le voisinage et que ça peut nuire à la santé, on trouve le moyen de les rejeter à l'extérieur. Donc là, je vous mets juste un exemple. Alors, pour trouver des cartes, c'est pas facile, hein. Mais là, ce qui est entouré, c'est une usine qui emploie 50 ouvriers, qui sert à faire de l'huile d'éclairage. Le plan est 1775. C'est l'usine de fabrication d'huile d'éclairage de la ville de Paris, avant le gaz d'éclairage qu'on a vu par le gaz hydrogène, et qui résulte de la fermeture ordonnée de tous les petits ateliers de fabrication d'huile d'éclairage de Paris pour les rejeter hors des faubourgs. Et là, en l'occurrence, il y avait 12 artisans qui fabriquaient de l'huile d'éclairage. Donc c'était à partir de cornes et de pieds de bœuf, de boucherie, qui tiraient la graisse. Et ensuite, la graisse était brûlée, ça faisait une flamme et ça permettait d'éclairer. À côté des chandelles, qui viennent aussi des bovins. Donc on est à l'extrémité du quartier du Gros Caillou. Alors, le quartier du Gros Caillou, c'est un faubourg qui fait le prolongement du faubourg Saint-Germain. Et là, on arrive sur l'ancienne île des Cygnes. Quand la manufacture a été établie, c'était encore une île, mais elle a été comblée au sud, donc c'était vraiment sur une île, vraiment à l'extrémité des parcelles habitées de Paris. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut cartographier, mais sinon, on a d'autres exemples de manufactures qui sont exclues de la ville. Donc là, c'est une des zones. Une zone un peu plus importante, c'est la zone de Montfaucon, la barrière du combat. C'est là où il y a le siège du Parti communiste et les buts de Chaumont, place du colonel Fabien, et puis après les buts de Chaumont, là, il y avait une zone d'ateliers complètement aux extrémités nord-est de Paris. En plus, les vents dominants qui viennent de l'ouest permettaient de rejeter les mauvaises odeurs qui étaient assez nombreuses plus loin. Il y avait une autre zone aussi qui était la Bièvre, parce que là, il y avait la question de la rivière qui était très importante et très utile pour les tanneries et les teintureries, par exemple. Mais globalement, donc, l'activité de la police a permis d'interdire et ensuite aussi de dégager certains ateliers, certaines fabriques de Paris. Alors d'autant plus que parfois certaines usines sont autorisées, puis l'urbanisation gagne, donc elles deviennent entourées par les habitations. Mais bon, vous savez qu'il y a un droit d'antériorité dans les codes juridiques, mais à cette époque, malgré le droit d'antériorité, si ces usines se retrouvaient entourées par les habitations, elles devaient redéménager à nouveau, parce qu'elles gênaient les nouveaux habitants et elles gênaient la santé publique, donc le droit d'antériorité n'était pas supérieur aux questions de santé publique. Alors ça commence à basculer, ce cadre général, hein. J'ai retrouvé quand même des condamnations très très lourdes, des démolitions d'ateliers sans indemnisation, des peines de prison pour certains artisans, notamment ceux qui n'avaient pas été autorisés. Donc cette police très très sévère, elle bascule à partir des années 1770-1780. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde où certaines zones, notamment autour des mines ou dans des zones isolées, commencent à produire beaucoup. Et pour produire des habits, notamment ce qu'on appelle les cotonnades, donc les toiles imprimées ou les indiennes, c'est-à-dire du coton. Le coton, ça a été vraiment le fer de lance de l'industrialisation. Et pour produire ces motifs, pour les imprimer sur le coton, il fallait des acides, notamment des acides sulfuriques. Et là, on a une peinture de Duramo qui est au Louvre, qui représente une manufacture d'acides sulfuriques en 1750 à Rome. Mais donc, il fallait produire des acides. Parce que les acides sont nécessaires à l'industrie textile, ils sont aussi nécessaires à la métallurgie. Ça permet de décaper et donc d'améliorer les manipulations métallurgiques. Et les acides ont été vus comme vraiment le produit clé de l'industrialisation, sachant qu'à cette époque, la Grande-Bretagne avait réussi à mettre au point une nouvelle technique de fabrication de l'acide sulfurique à partir des années 1765. Fabrication en vase clos, là c'est en vase ouvert. Le rendement n'est pas très bon. En vase clos, le rendement est meilleur et ça permet de produire à l'échelle industrielle. Le soufre ou les pyrites de fer qui étaient brûlés, qui dégageaient donc un gaz acide, étaient condensés, non pas à l'air libre comme ici ou dans des globes en laboratoire, des globes de verre qui étaient assez fragiles, très coûteux, un peu dangereux, mais dans des boîtes en plomb laminé. Donc il fallait savoir laminer le plomb, donc c'est seulement après les années 1760 que ça a été possible, qui ont grossi au point d'avoir la taille de cette pièce, et c'est pour ça qu'on les appelait les chambres de plomb. Et ça a permis de produire de l'acide sulfurique à l'échelle industrielle. C'est le secteur qui donne un peu la clé pour comprendre la révolution industrielle. Depuis cette date, si on regarde les statistiques de production d'acide sulfurique et la courbe de la production industrielle dans le monde, eh bien on se rend compte que les deux courbes suivent le même profil. Et si vous voulez avoir un état de la bonne santé industrielle du monde de nos jours, vous regardez la production d'acide sulfurique. Si ça baisse, c'est qu'on est en récession, et si ça augmente, c'est que c'est en croissance. Hein. Toutes les industries utilisent l'acide sulfurique quasiment d'une manière ou d'une autre. Même les industries agroalimentaires, par exemple pour laver les tuyaux, qui sont nombreux dans les usines agroalimentaires, on injecte de l'acide sulfurique, ça décape, ça lave, et après on peut refaire passer des produits pour fabriquer du sucre, pour fabriquer plein de choses. On a besoin d'acide sulfurique. Alors, ça provoque une controverse parce que ces acides sont très offensifs, hein, bien sûr. S'il y a un atelier d'acide juste à côté et qu'il y a des fuites de gaz, on va tous tousser, se piquer les yeux et parfois, même pour certaines personnes, ça dépend de la concentration, saigner du nez, voilà. Et donc, ces sujets controversés, ça dure pendant 40-50 années. Et les scientifiques de l'époque, dont Chaptal, hein, on va en reparler, pouvaient constater ces effets-là, mais en même temps, il y a eu un petit basculement dans les années 70 parce qu'autour de Lavoisier, il y a des chimistes comme Guiton de Morveau, Fourcroy, Berthollet. Ces chimistes qui ont inventé la nouvelle nomenclature chimique de 1787. Je ne sais pas si vous avez ces éléments, mais les années 70 et 80 du 18e siècle, avec Lavoisier, c'est la naissance de la nouvelle chimie. Découverte de l'oxygène, découverte de la composition de l'eau. C'est-à-dire des choses un peu évidentes qu'on apprend au collège et au lycée de nos jours. C'est Lavoisier qui a été le fer de lance de toutes ces trouvailles avec Berthollet, Fourcroy, Guiton de Morveau. Et ces chimistes, ils ont fait des expériences dans les 70 pour purifier l'air, notamment pour détruire les miasmes qui étaient associés à la putridité, à la fermentation. Et pour détruire les miasmes, ils ont fait des expériences de fumigation de gaz acide. Miracle, ils ont trouvé que ça marchait, que par exemple dans les caveaux de la cathédrale de Dijon, ça a été l'expérience un peu primordiale. Guiton de Morveau a fait des fumigations d'acide chlorhydrique en 1773 et les odeurs infectent des caveaux du cimetière en fait de Dijon qui était sous la cathédrale. Tout d'un coup, ces odeurs avaient disparu après les fumigations d'acide chlorhydrique là, et à partir de cette date-là, ces chimistes ont promu les acides pour désinfecter l'air. Ça tombait bien parce que les gouvernements, les autorités, les industriels avaient besoin de développer cette industrie chimique. Et donc, sous couvert de désinfection par les acides, ces industriels ont pu trouver des justifications pour produire, et même si ça gênait le voisinage, il y a eu un discours de scientifiques, et Chaptal en particulier, pour dire que ces gaz acides pouvaient être un peu irritants, mais en fait, ils permettaient de désinfecter l'atmosphère. Donc il y a eu une grande mode de fumigation par les acides entre ces années-là. Ça s'est arrêté après, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas la solution. Mais en tout cas, pendant 40 ans, pendant le moment où il y avait un espèce d'essor de l'industrie chimique, il y a eu beaucoup d'expériences de fumigation par les acides dans les étables, dans le cadre des épizooties animales hein, qui commençaient à émerger à la fin du XVIIIe siècle, dans les prisons, dans les navires, dans les théâtres même, pour désinfecter l'air des atmosphères un peu surchargées de respiration humaine ou bovine, de concentration en fait de l'économie animale. Hein. Alors, un autre basculement, c'est celui de l'innovation, de l'encouragement à l'innovation, avec cette société aussi des philosophes des Lumières hein, qui ont pensé le progrès, non pas seulement philosophique, mais aussi technique. L'encyclopédie Diderot et d'Alembert, hein, c'est pas seulement une encyclopédie de la philosophie, c'est aussi une encyclopédie des arts et métiers, avec une nouvelle forme de promotion des arts et métiers et de l'innovation. Dans le cadre de l'industrialisation et de la concurrence avec la Grande-Bretagne, il y avait un nouvel appareil qui était scruté par les autorités, c'était la machine à vapeur. Donc la machine à vapeur, c'est quoi l'origine? Au départ, on l'appelait la pompe à feu parce que la machine à vapeur, donc l'idée, c'est de produire de la vapeur pour que cette vapeur sous pression permette de faire bouger des mécanismes. Hein. Donc ça permettait, en l'occurrence, de faire bouger un piston qui lui-même, à l'aide d'une bielle, faisait tourner une roue. Ça, c'est pour les usines. Mais les premières ont été conçues pour pomper l'eau, pour une pompe. Et pour remplacer les animaux qui faisaient actionner une pompe en tournant, et notamment dans les mines. Le problème des mines, c'est que quand on creuse une mine, l'infiltration de l'eau fait qu'elle s'en noie. Et il faut tout le temps pomper une mine. Et donc, comme il y avait beaucoup de mines en Grande-Bretagne, c'est une des raisons, hein, c'est en Grande-Bretagne que les premières pompes à vapeur ont été créées, et les premières à vraiment fonctionner, c'est 1711 avec Thomas Newcomen dans les mines de Cornouailles. Et puis ensuite, pendant 80 ans, il y a eu beaucoup de pompes à eau, pompes à feu, pour pomper l'eau des mines, qui ont été installées dans les mines du Royaume-Uni. Et les premières applications industrielles de ces machines à vapeur, c'est après les améliorations de James Watt, 1769, l'ajout d'un deuxième condensateur qui a permis d'augmenter le rendement, de faciliter le rendement et de rendre un usage industriel pour faire tourner des roues Donc à partir de faire tourner les roues, faire tourner des machines et donc pouvoir introduire ces machines à vapeur dans les usines. La première c'est 1774 à Manchester. Et puis ensuite en France à partir des années 1800. Alors en France, ce souci de l'innovation, cet encouragement pour les pompes à feu, au départ c'était pas tout à fait pour l'usine, c'était pour pomper l'eau de la Seine, pour approvisionner des réservoirs, puis ensuite par un système d'adduction permettre d'amener l'eau dans des habitations parisiennes. C'était pas encore l'eau à tous les étages, mais ça permettait d'amener l'eau dans les habitations plutôt que de faire appel à un porteur d'eau comme le faisaient les bourgeois ou les aristocrates de cette époque. Et puis puiser dans l'eau du puits qui n'était pas toujours très très potable. Les premières pompes à feu installées en France, c'est à Paris. Et ça, c'est la deuxième que vous voyez ici représentée. La première, elle a été mise au pied de la colline de Chaillot, donc pas loin de Radio France actuellement. Et la deuxième, ici, dans le quartier du Gros Caillou, pas loin de l'usine d'huile d'éclairage qu'on a vu tout à l'heure. On voit le dôme des Invalides là à côté. Et vous voyez que cette machine à vapeur, ça c'est une représentation de 1786, c'est vu un peu comme un spectacle, hein. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Les gens, ils se baladent en barque ou ils se promènent à côté pour voir cette machine tout à fait nouvelle, assez incroyable, inconnue en France, qui était connu de certaines personnes qui avaient lu des ouvrages sur les pompes à feu, mais sinon c'était pas connu. Mais en même temps, spectacle, mais un peu effrayant, comme vous le voyez, avec ces flammes qui sortent de la cheminée, ces fumées de toutes les couleurs qui sont très épaisses. Et ça, ça posait un problème parce que ces machines à vapeur qui ont été inventées en Grande-Bretagne, elles fonctionnent avec du charbon de terre, de la houille. Or, à Paris, ça je l'ai pas dit, mais ça fait partie des normes, il est interdit de brûler de la houille dans Paris. C'est pas autorisé du tout. Pourquoi ? Parce que la houille dégage des odeurs un peu sulfureuses, ça sent l'œuf pourri, ça pue, ça fait aussi des grosses fumées noires, beaucoup de suie, donc c'est une nuisance, c'est considéré comme une nuisance, et pour cette raison, avant 1780, il n'est pas autorisé de brûler du charbon dans Paris, ce qui gêne un peu l'industrie aussi, puisque c'est un pouvoir calorifique très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour permettre ces machines à vapeur de s'installer ? Eh bien, un rapport a été commandé à l'Académie des sciences, c'est Lavoisier qui l'a écrit, sur l'incommodité de ces fumées. Est-ce que finalement on ne pourrait pas brûler du charbon de terre dans Paris, etc. Et Lavoisier fait la balance en fait entre les avantages et les désavantages, et il considère quand même que c'est plutôt intéressant de tester ces techniques à Paris même. Finalement, elles sont autorisées, et le projet de l'entrepreneur, c'était Perrier, l'entrepreneur, les frères Perrier, ils avaient projeté de mettre la machine à vapeur sur le jardin des Tuileries, près du palais royal. Et même si le roi habitait à Versailles, le roi a décidé que quand même, non, il ne voulait pas être gêné par la fumée et qu'il fallait que cette machine à vapeur soit installée plus loin, d'où soit la première installation au bas de la colline de Chaillot. Même le roi était un petit peu inquiet des effets de cette machine sur sa santé et celle de sa cour, en fait, même s'il n'habitait pas beaucoup à Paris. Résultat des courses, c'est que ces machines à vapeur ont été installées et elles ont commencé à fonctionner. Et à partir de là, puisque c'était devenu, c'est par droit dérogatoire, hein, là, c'était qu'on avait le droit de brûler du charbon de terre. Puisque ça a été autorisé par exception, bah, finalement, ça a été normalisé ensuite. Et ça a été étendu à d'autres industries. Donc, dans les années 1780, des porcelaineries, des brasseries ont eu l'autorisation de brûler du charbon de terre dans leurs fourneaux. Ils ont reconstruit d'autres fourneaux parce que quand on utilise du charbon de terre, c'est pas tout à fait pareil que du charbon de bois ou du bois. Il faut construire les fourneaux un peu différemment. Et à partir de là, il y a une espèce de brèche dans la régulation de droit commun qui était de ne pas pouvoir brûler du charbon de terre. Donc tout ça au nom de l'innovation et de la course, l'introduction de techniques innovantes. Après, il y a la Révolution française qui arrive, qui évidemment avait un fort pouvoir émancipateur au niveau politique et social, et qui a bouleversé le droit des nuisances. Parce que le droit des nuisances que je vous expliquais tout à l'heure, il découlait du droit commun issu du Moyen-Âge. Et la Révolution française va considérer que la notion de liberté et de nuisance, c'est pas tout à fait celle du droit commun, ça va être celle de la volonté générale. Si on regarde l'article 4 de la Déclaration de l'homme et du citoyen, on se rend compte que les deux premières phrases sont celles du droit commun, en quelque sorte. Hein. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc on peut faire tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas nuire au voisinage. Quelles sont ces bornes ? Alors, les bornes, c'est la deuxième phrase, hein, l'exercice des droits naturel de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Donc c'est les uns et les autres qui, par coexistence, on fixe la borne entre les deux. Et, dernière phrase très intéressante, ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Et la loi, c'est la grande chose de la Révolution française, c'est l'expression de la volonté générale. Or, le droit des nuisances n'avait pas besoin de loi jusqu'à présent pour fonctionner. Il était simplement issu du droit commun. ce qu'on appelle le droit commun, qui lui-même philosophiquement peut se rattacher au droit naturel, mais juridiquement c'est le droit commun. Et là, les députés qui s'assemblent en assemblée constituante, hein, en août 1789, décident que c'est la loi qui va fixer ça, c'est-à-dire la volonté générale, c'est-à-dire que ça transforme le droit des nuisances du droit commun vers un aspect politique. Parce que finalement, si c'est la volonté générale, on peut dire ce qu'on veut. Il suffit qu'on soit d'accord et qu'il y ait une expression politique de la chose. Alors on va voir que ça va se mettre juridiquement en place dans les années qui suivent. Alors dans le court terme de la Révolution française, puisque tous les règlements d'Ancien Régime ont été abolis, la féodalité, mais aussi les enquêtes de commodo et incommodo, l'encadrement des fabrications, donc le droit de fabrication, le bureau du commerce, et tout ça, tout un ensemble de dispositifs qui encadraient les fabrications, ont été complètement abolis, et y compris le droit des nuisances du coup. Les procès-verbaux des commissaires de police sont conservés encore, enfin il y en a beaucoup qui ont disparu, mais une partie a été conservée. Je les ai épluchés intégralement et on retrouve des pépites comme ça, des industriels et des artisans qui disent, ici c'est une petite citation, hein, que les fabricants répondent que maintenant ils sont libres. Hein, la liberté donnait la permission de travailler partout. De fait, les industriels pouvaient s'implanter partout, fabriquer ce qu'ils voulaient, avec les quantités qu'ils voulaient, selon les procédés qu'ils voulaient. Jusqu'alors, il y avait les corporations qui surveillaient la façon de produire. Maintenant, les industriels sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, y compris de nuire au voisinage. Puis bon, la période de la Révolution, c'est une période surtout de bouleversements sociaux et politiques. La première préoccupation, c'est d'établir un nouvel ordre social, un nouvel ordre politique. Et puis après, de rentrer en guerre aussi contre les puissances coalisées aristocratiques. Et la guerre n'a jamais été bonne pour l'environnement. Je crois pas qu'on connaisse une situation où la guerre était bonne pour l'environnement, et c'était le cas sous la Révolution française, puisque pendant la guerre, donc à partir de 1792, il a été décidé de créer à Paris ce qu'on appelait la Manufacture de Paris. Et celui qui a décidé ça, c'est Guiton de Morvaux, dont j'ai déjà parlé un peu, celui qui a fait des expériences sur l'acide chlorhydrique. Pourquoi ? Parce que Guiton de Morvaux est devenu le premier président du comité de salut public. Ça, on le sait un peu moins. Mais le comité de salut public institué en 1793, donc est une émanation de la Convention nationale, hein, qui est vraiment l'assemblée qui dirige le pays, il n'y a plus de gouvernement. Donc ce comité de salut public devient en quelque sorte le gouvernement de la France, et le premier président, c'est Guiton de Morvaux, ce chimiste très proche de Chaptal, et qui décide de créer dans Paris une manufacture de production de guerre. Donc là, vous avez cartographié, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, la cartographie de tous les ateliers de fabrication de guerre, fusils, cartouches, équipements militaires, etc. Donc c'est plusieurs dizaines d'ateliers. Donc parmi ces ateliers, on a des laminoirs de cuivre sur la Seine avec des bateaux moulins, comme vous avez une représentation ici, qui sont arrimés au pont, qui grâce à la force de l'eau font tourner une roue et permettent de laminer du cuivre. Vous avez aussi dans le couvent des Barnabites, c'est tout près de la cathédrale, elle n'existe plus, ce couvent n'existe plus, il a été détruit, mais tout près de la cathédrale Notre-Dame, une immense usine d'affinage de cuivre, 2000 ouvriers y travaillent pendant deux ans, 1793-1795, et même dans le petit jardin à côté de Notre-Dame, vous voyez, derrière Notre-Dame, il y a un petit jardin, ben là il y a 48 fourneaux d'affinage de bronze, qui ont été construits. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces 48 fourneaux? En fait, ils fondaient les cloches de Paris, qui sont en bronze, pour séparer le cuivre de l'étain, pour pouvoir ensuite refabriquer un alliage pour faire un nouveau bronze, mais avec des proportions différentes, pour fabriquer les canons. Parce qu'en fait, si on fait juste fondre les cloches et qu'on utilise cet alliage pour les canons, ils explosent, ils ne sont pas efficaces, il faut créer un autre alliage de bronze. Et donc, il fallait fondre les cloches. Il y a beaucoup de cloches dans Paris, hein, des tonnages exceptionnels. Il y a un décret de la Convention qui dit que toutes les cloches devaient être fondues sauf une par église. Et ce n'était pas pour des motifs religieux, c'était pour sonner le tocsin, hein, en cas d'incendie ou de danger. Donc il n'y a qu'une cloche par église qui a été conservée sous la Révolution française. Toutes les autres ont été fondues tout près de la cathédrale Notre-Dame, comme vous savez, qui a brûlé il y a 4 ans, mais qui a failli brûler ici puisqu'il y a eu plusieurs incendies qui se sont déclarés dans ce couvent des Barnabites. Pourquoi ? Parce que c'est des fourneaux en fusion tout le temps, avec un usage d'acide très important, parce qu'en fait, pour séparer les alliages, pour séparer le cuivre de l'étain, c'est par les acides qu'on arrive à séparer les métaux les uns des autres. Hein. Et parmi les autres usines, il y a la poudrerie de Grenelle aussi, qui a été mise en place. Donc les poudreries, effectivement, qui étaient interdites dans les lieux habités, parce qu'une poudrerie, ça explose en moyenne, sous l'Ancien Régime, deux fois par an. Alors, quand on dit que ça explose deux fois par an, justement, il y a des précautions qui étaient prises, c'est-à-dire que tous les bâtiments des poudreries étaient isolés les uns des autres, souvent avec des constitutions de talus, de terre, hein, pour séparer des bâtiments entre eux pour pas qu'il y ait d'ondes de choc qui se propagent. Et puis, surtout, à 15 km des habitations et pas plus de 50 ouvriers. Ça, c'était les règles de fabrication de la poudre d'artillerie sous l'Ancien Régime. Donc, la poudre d'artillerie, c'est très explosif. On appelle ça la poudre noire. C'est un mélange de salpêtre, de soufre et de charbon dans des proportions très, très normées. Et là, il a été décidé d'établir une poudrerie dans Paris. Donc, c'est sur la place Duplex actuellement, donc pas loin des Invalides. Ce dessin, c'est un peu triché parce que c'est la poudrerie du Caire, mais c'est la même époque, c'est 1800. Il fallait donc mélanger. Là, on a un manège à chevaux qui mélange, qui triture en fait les trois matières pour faire une poudre noire d'artillerie. Et c'est Chaptal, effectivement, qui a dirigé cette poudrerie, puisqu'il était responsable de l'agence des poudres et salpêtres sous la Révolution, 1793-1794. Et bah, il a décidé, avec le comité de salle publique, de créer cette poudrerie où on travaillait aussi 2000 ouvriers. 2000 ouvriers, selon des procédés révolutionnaires, puisqu'il s'agissait de fabriquer la poudre très très rapidement, là en 3 ou 4 jours plutôt qu'en 1 mois. Et donc, selon des procédés révolutionnaires, donc il y a eu une immense usine sans toutes ces règles d'isolement des bâtiments les uns les autres, avec une grosse concentration. Il y avait aussi un encadrement militaire pour pas que les ouvriers fassent rentrer des allumettes, les allumettes, c'est ce qu'il y avait avant les allumettes, quoi, pour allumer leurs cigarettes. Interdiction de fumer, évidemment, sur le site, etc. Les chevaux qui rentraient ne devaient pas être ferrés pour éviter les étincelles, par exemple. Enfin, bon, il y avait plein de quelques précautions, mais malgré tout, 2000 ouvriers rassemblés là. Et finalement, elle a explosé, cette poudrerie, parce que les préventions en fait, et les mesures de sécurité n'ont pas été respectées. 3 mois après sa construction, en fait, elle a explosé. Le 31 août 1794, elle a tué plus de 600 personnes. C'est le plus grave accident industriel de l'histoire de France, en fait, hein, si on excepte l'effondrement de Courrières en 1906 dans les mines du Nord, qui était un accident minier. Mais là, au niveau industriel, c'est le plus grave accident et qui a blessé 1200 ouvriers. Avec des débris qui ont été retrouvés à Versailles, à Gonesse. Une explosion qui a été entendue jusqu'à 60 km. Il y a des témoignages de locaux d'avoir entendu un bruit. Et tout le faubourg Saint-Germain a été endommagé d'ailleurs. J'ai travaillé un peu sur cette explosion. J'ai écrit 2 articles dessus. Tous les morts étaient quasiment que des ouvriers. Il y a eu des blessés à l'extérieur, mais très peu. Donc vous voyez, un ensemble de précautions mis vraiment à l'arrière-plan. Et finalement, il y a un homme qui a fondé le Nouvel Ordre, qui était déjà un peu engagé avec Guiton de Morvaux, Lavoisier, dans tout ce qui concernait la nouvelle expertise chimiste des nuisances, mais qui est devenu un peu central dans ses affaires parce que il avait dirigé la poudrerie de Grenelle. Il se trouve qu'il faisait l'appel tous les matins, il allait faire l'appel tous les matins, et le jour où elle explosait, il était parti s'amuser à chasser, je ne sais plus où, à pas Rambouillet, mais... Et donc, il a été soupçonné dans un contexte de révolution un peu, où la contre-révolution était pourchassée. Et donc, en fait, juste après l'explosion, il a fui. Enfin, bon, ça, c'est pour la petite histoire. Il a fui tout de suite. Alors, malheureusement, l'explosion, elle a aussi détruit tous les papiers de la poudrerie, donc toutes les archives de production. C'est dommage. Mais bon, il en reste quelques-unes qui étaient ailleurs. Bon, finalement, il a pu revenir 3 ans après, absous par un rapport de l'Académie des sciences, écrit par Cadet de Vaux, qui était un de ses collègues aussi, très, très proche, chimiste, qui disait que c'est finalement la prévoyance des ouvriers qui a été la cause. En 1797, on n'est plus sous le régime de la terreur de ces années-là, 1794. Hein. Donc Chaptal a pu revenir, notamment protégé par Berthollet, qui lui n'avait pas été inquiété, un autre chimiste important. Et Chaptal, effectivement, est nommé ministre de l'Intérieur entre 1800 et 1804, après le coup d'État de Napoléon Bonaparte. Il faut souligner qu'il avait fondé aussi en 1798 une usine d'acide sulfurique au Tern, place des Ternes actuellement à Paris, donc c'était en limite urbaine à l'époque. La plus grosse usine d'acide sulfurique au début du 19e siècle, donc une usine importante, et qu'il a été inquiété, traduit en procès, en justice de paix pour ses pollutions, et qu'en 1803, Chaptal a ordonné la fermeture du procès au juge de paix qui, un peu penaud, lui a écrit pour lui demander ce qu'il devait faire, parce qu'il était quand même ministre de l'Intérieur. Ça, c'est pareil, j'ai retrouvé les archives, j'étais content d'avoir cette lettre et la réponse de Chaptal parce que c'est assez piquant. Alors, comment il a été remarqué? Il a écrit un petit ouvrage en 1799, Essai sur le perfectionnement des arts chimiques, et je pense que vous pouvez le trouver sur Gallica, mais c'est un ouvrage assez intéressant où il conditionne le développement économique à l'application des dernières découvertes de la chimie à l'industrie. Et donc, il fait un panorama des découvertes de la science chimique, et aussi un panorama des applications industrielles de ces découvertes. Et donc, lui, il considère que le pays se développera s'il arrive à faire une application de la chimie au niveau industriel. Donc il se fait remarquer par Napoléon Bonaparte, il était dans les bons cercles aussi. Ministre de l'Intérieur, il crée plein de choses. Hein. Il réforme le système de l'enseignement, il réforme la gestion des cimetières, il crée les préfectures surtout, on connaît tous bien, préfecture de police aussi bien sûr. Il crée la société d'encouragement pour l'industrie nationale qui a été vraiment un organe de propagation des innovations et de soutien à l'industrie très important au XIXe siècle avec des financements de la part de l'État très très importants. Elle existe encore, hein, mais aujourd'hui c'est plus de la communication qu'autre chose. Et il crée le Conseil de salubrité de Paris en 1802, sur lequel là, pour le coup j'ai beaucoup travaillé, dont dessine la composition, puisqu'il nomme tous ses collègues chimistes de l'Académie des sciences, qui eux-mêmes, on va le voir, je vais vous montrer, sont tous engagés dans des opérations industrielles. Et finalement, puisque le ministre de l'Intérieur, il a la remontée de tous les préfets qui s'inquiètent de toutes ces questions, des problèmes de nuisance, de procès entre des voisins et des industriels, il, pour essayer de résoudre le problème, il commande à l'Académie des sciences un rapport sur les établissements insalubres, pour qu'il y ait vraiment une expertise scientifique sur ça. Et l'Académie des sciences, qui est souveraine, qui décide de ses propres méthodes, etc., elle commande un rapport, et elle commande un rapport à deux de ses membres. Et là, si vous me suivez bien, vous pouvez imaginer quels sont ces deux membres qui ont été commandités pour écrire ce rapport. Bah, c'est Chaptal et Guiton de Morveau. Et donc, Chaptal se retrouve à la fois industriel accusé, régulateur suprême, puisque ministre de l'Intérieur, et expert mandaté par l'Académie des sciences. En 1804, donc quand le rapport est rendu, il venait de démissionner de son ministère, mais bon, peu importe, l'histoire est là. Dans ce rapport, les deux chimistes, Guiton de Morveau, qui était donc ce propagateur de l'acide chlorhydrique, et Chaptal, disent que l'industrie chimique, en fait, elle est bien nécessaire pour le pays. Bon, elle est un peu dangereuse, elle est un peu nuisible, pas autant que les tanneries quand même et les teinturies, mais bon, ça serait bien qu'il y ait une forme de régulation, mais ce qu'il faut surtout, c'est protéger l'industriel. Parce que si un industriel investit, construit des bâtiments, et que deux mois après, il est mis en procès, qu'il est condamné, bah, en fait, ça va décourager l'investissement, et puis aucun industriel va se lancer dans de telles productions. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut une loi qui protège le capitalisme, en fait, enfin, là c'est moi qui dis, mais en fait il parle de capital hein, quasiment, et il dit qu'il faut une loi qui protège les investissements des industriels, sinon il n'y aura pas d'industrialisation en France. Alors, ce conseil de salubrité qui devient l'organe central d'expertise sanitaire en France, parce que c'est celui de Paris, mais tous les préfets des départements, ils se reposent sur son expertise, parce que c'est le seul en fait qui est mis en place en France. L'Académie de médecine, elle avait été supprimée, elle est rétablie seulement en 1820. Donc le lieu d'expertise sanitaire en France, c'est le Conseil de salubrité de Paris entre 1802 et 1820. Et puis le Conseil de salubrité, il continue et ça reste vraiment la référence pour ensuite les autres conseils de salubrité qui seront mis en place dans d'autres villes, puis ensuite au niveau départemental à partir de 1848. Hein. Quand on regarde la composition de ce Conseil de salubrité, ce sont quasiment tous des pharmaciens chimistes. Il y a très peu de médecins. Parisais, c'est un médecin, mais les autres sont des pharmaciens chimistes. Bérard, c'est un administratif et Girard, c'est un ingénieur. Ils sont tous engagés avec Chaptal, Guiton de Morveau, Fourcroix, dans l'application des découvertes chimiques à l'industrie. Certains d'entre eux, ce sont eux qui ont lancé la production de soude artificielle en France. Alors la soude artificielle, c'est quoi? Ça remplace la soude végétale, qui était donc une soude produite par la combustion des plantes salines, hein, du varech ou de la salicorne, des plantes marines. Maritime, enfin, qu'on trouve sur les bords des rivages. Donc, ça crée de la soude végétale qui, alors, la soude, ça sert à la verrerie, parce que ça permet d'abaisser le point de fusion du sable pour faire du verre à 1300 degrés, je crois. Sans soude, plus d'énergie, donc. Et puis, ça sert aussi à l'industrie du savon. Et donc, en 1800, il y a un médecin, Leblanc, qui parvient, enfin, c'est un peu avant, mais la première application industrielle, c'est 1800, qui parvient à concevoir une fabrication de soude artificielle en faisant décomposer du sel marin, avec de l'acide sulfurique. Le problème, c'est que ça dégage de l'acide chlorhydrique, cette combinaison chimique, qu'on ne sait pas condenser. Donc, tout l'acide chlorhydrique sort dans l'atmosphère et brûle les récoltes alentour. Hein. Et les quatre personnes qui ont lancé cette production, c'est ces quatre, parce que Leblanc, c'est le concepteur initial, on va dire, mais c'est Parmentier, Deslieux, Darcé et Marc, ce sont eux qui ont lancé la production d'acide de soude en France. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment le produit en fait, qui a été le plus polluant au XIXe siècle. Et Darcé, il a une grosse usine de soude artificielle à Nanterre, qu'il dirige jusque dans les années 1830. Pas de problème, il peut être quand même au Conseil de salubrité. Et à partir de 1815, Darcé co-dirige avec le fils de Chaptal. Alors Chaptal est toujours vivant, mais il met son fils dans cette usine des termes de sulfurique. Donc Darcy, à partir de 1815, il co-dirige l'usine d'acide sulfurique des Thermes aussi. Ben, ce sont ces personnages, les experts sanitaires, et qui ont dit ce qui était bon ou pas bon pour la santé de la population par rapport aux manipulations industrielles. Et ce sont eux aussi qui ont développé les produits chimiques ou l'industrie du gaz d'éclairage qu'on a vu en ouverture de l'exposé, c'est-à-dire la distillation du charbon de terre, puisque ce sont ces personnes-là qui sont surlignées, notamment Girard, l'ingénieur Girard, hein, et Darcet, encore une fois, qui ont construit les premières usines de gaz d'éclairage à Paris. Alors, sans s'étonner, ils sont tous en lien, et là je ne détaille pas parce que ça serait trop long, mais toutes les flèches, là, ce sont les liens réels et directs entre les quatre plus gros pollueurs de Paris et les membres du conseil de salubrité. J'ai parlé tout à l'heure de Darcet, hein, qui co-dirige l'usine avec Chaptal, l'acide sulfurique. Payen, il est très proche. D'ailleurs, Payen, là, c'est jusque 1830, mais Payen devient membre du conseil de salubrité en 1840. Il a une grosse usine de sel ammoniac sur la plaine de Grenelle. Et ça va être vraiment le berceau de ce pôle de la chimie industrielle à Grenelle, hein, avant que ce soit Citroën. Donc on aboutit à quoi ? On aboutit à une loi, 1810, et c'est la première loi au monde sur les pollutions industrielles. Pourquoi une loi ? Ben, vous vous souvenez de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Pourquoi une loi ? Pourquoi sortir du droit commun ? Ça a été un débat. Je vais vous donner mon interprétation aussi. Première loi au monde, 1810, donc en fait c'est un décret, mais bon, on est en régime impérial dictatorial, hein, donc il n'y a pas de loi de voter, hein, ce sont des décrets de l'empereur, mais ça a valeur législative, qui dit donc en gros qu'il faut effectivement qu'il y ait une régulation, qu'il y ait une forme de contrôle de ces industries, avec des remises en marche des enquêtes préventives. Mais surtout, article 11 et article 12, ce que dit ce décret, c'est qu'article 11, en fait, il pourrait y avoir des poursuites judiciaires, mais seulement au civil. Au civil, c'est-à-dire pour trouver une juste indemnisation des dégâts. Donc si un voisin qui a été lésé par une usine, il pourrait être indemnisé. C'est le principe du pollueur-payeur qui est mis en place. Et l'article 12 dit, en gros, en cas de grave insalubrité, c'est-à-dire nuisance publique, hein, donc qui relève du champ pénal, eh bien, ce ne sont pas les cours correctionnelles ni les cours d'assises qui prendront en charge les dossiers, ça sera l'administration, et notamment le Conseil d'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette loi, elle crée un régime dérogatoire au droit commun pour que les affaires de santé publique ne soient plus traitées par les cours pénales, mais par l'administration publique, et en particulier le Conseil d'État. Alors pourtant, la même année, on a le droit pénal, qui est écrit, hein, Code civil, c'est 1804, Code pénal, c'est 1810, et le Code pénal, dans son article 471, permet aux juges de poursuivre des industriels pour exhalation de mauvaise odeur. Alors il y a eu un espèce de conflit de juridiction qui a été très très discuté par les juristes pendant 15-20 ans, en 1824, puis 1827, mais 1824 surtout, le Conseil d'État a tranché et a établi que ce serait donc l'administration qui prendra en charge ces questions de nuisance publique et non pas la justice. Héron de Villefosse, qui a été conseiller d'État, il était aussi ingénieur des mines, hein, et il a bien résumé la situation dans un de ses rapports, hein, en disant que c'est précisément parce que l'application des règles de droit commun avait présenté d'énormes difficultés dans les affaires de ce genre, donc dans les affaires de pollution, hein, qu'il était reconnu nécessaire en France d'établir une législation spéciale, très importante, concernant les ateliers qui répandent une odeur insalubre et incommode. En clair, ben, ces industriels qui produisent et qui provoquent des nuisances, on les met dans un régime spécial dérogatoire, sous contrôle de l'administration publique, et donc sous protection du gouvernement. Ça, c'est la progression des établissements insalubres à Paris et en banlieue, où on voit que jusqu'en 1830, Paris domine encore. Donc jusqu'en 1830, Paris s'industrialisait plus vite que la banlieue. On a toujours l'image d'une banlieue industrielle. On se rend compte que ça, ça ne fait pas le plaisir des citadins, puisque là, bon, j'ai retracé la courbe de toutes les affaires qui avaient eu lieu en contentieux ou en opposition lors des demandes d'autorisation entre 1808 et 1829. Et il y a un deuxième graphique donc, que je n'ai pas dû mettre. Plus de la moitié des affaires traitées étaient soit en préalable lors des enquêtes préventives, soit en contentieux, sujettes à des contestations de la part des voisins. Et que c'est allé en augmentation, en fait, hein. Alors, Paris devient donc une ville industrielle. Par exemple, à gauche, vous avez les établissements ici, les corroyeurs. C'est la manipulation du cuir pour faire des lanières, des ceintures, des harnais. Donc avec des produits, et puis il faut taper le cuir longtemps, donc ça dégage à la fois des mauvaises odeurs et beaucoup de bruit. Ces corroyeries, par exemple, elles étaient interdites dans Paris avant 1789. Et là, vous voyez qu'en 15 ans, il y en a une soixantaine qui ont été autorisées dans la ville grâce au conseil de salubrité, hein, qui disait bah, c'est incommode, mais bon, il faut bien encourager l'industrie. Et puis la deuxième carte, c'est les établissements de banlieue. Alors vous savez que Paris, avant 1860, c'est tout petit, hein. Et donc, vous voyez tous les gros points noirs qui sont autour de Paris. C'est du 12e au 20e arrondissement actuel, hein. Donc, on voit par exemple Belleville au nord-est. On voit Vaugirard au sud-ouest. À côté de Vaugirard, il y a Grenelle le long de la Seine, là où il y a la manufacture de Payen, dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, hein. Alors, il faut se dire que donc, dans Paris, jusque 1830, c'est encore plus que tout ça réuni, hein, puisqu'on a vu qu'il y avait plus d'usines qui étaient implantées. Alors, Paris est devenu vraiment, donc, à partir de ce moment-là, donc, cette ville industrielle. Donc, c'était le basculement que je voulais vous mettre en valeur. Et le Conseil de salubrité se fait l'observateur de cette mutation. Puisqu'en 1817, hein, il dit que le commerce intérieur a pris une activité incroyable. Paris en est devenu l'entrepôt général et cette ville de luxe, de calme et de plaisir est devenue laborieuse et agitée. Et en 1823, la ville de Paris, de tout temps le centre des Lumières, peut aujourd'hui être regardée comme le centre de l'industrie. Et là, ils sont très admiratifs, hein. C'est une célébrité admirative par rapport à ça. Ce résultat est présumé depuis longtemps. Les sciences chimiques, physiques et mathématiques, en se perfectionnement, perfectionnent nécessairement les arts, qui n'en sont qu'une application. Et l'homme industrieux, qui trouve dans la capitale toute espèce de secours en même temps qu'un débouché tout prêt pour ses produits, s'y fixe de préférence. Ainsi, tous les ans, de nouvelles découvertes créent de nouveaux établissements qui sollicitent la surveillance de l'administration. Alors, ces rapports, ce qui est intéressant, ils sont publiés non pas dans des revues médicales, mais ils sont publiés dans les annales de l'industrie française. Hein, comme quoi... voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir les logiques. Vous voyez que dans la citation d'avant, le Conseil de salubrité était favorable à l'implantation en ville parce que l'industriel peut y trouver des débouchés. Il trouve aussi une main-d'œuvre à proximité, donc il a tout intérêt, à partir du moment où il trouve les moyens d'approvisionnement, à s'établir en ville. Marché de consommation, marché de main-d'œuvre, etc. Pour le gaz d'éclairage, c'est intéressant de voir la logique qui a été adoptée. Alors, le gaz d'éclairage, c'est dangereux puisque le gaz est stocké dans des gazomètres, comme vous le voyez ici. Alors, ici, c'est la manufacture de Powells qui était Faubourg Poissonnière. Je crois que c'est 1823, quelque chose comme ça. Et parfois, ça explose. À Paris, il y a une gazomètre Courcelles, barrière de Courcelles, donc pas loin de l'usine de Chaptal des Ternes qui a explosé en 1844, hein, qui a tué quelques individus. À Londres, il y en a une qui a explosé, qui a fait beaucoup plus de dégâts en 1866. Mais en 1817, c'est donc au moment de la première usine de gaz éclairage, elle a été construite dans une église dans le jardin du Luxembourg. Une église qui n'existe plus, mais... Parce qu'après la Révolution française, il y a beaucoup d'églises qui ont été converties en usines. C'était des biens nationaux. Il y a des grandes surfaces, des grandes voûtes, de l'espace. Et donc, la première usine, et c'est celle qui expertise Cadet de Gassicourt du Conseil de salubrité, là, en août 1817, c'est l'usine de l'église du Luxembourg. Et il dit, en fait, oui, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça mériterait d'être en première classe, donc éloigné des habitations. Mais il dit, en gros, comme des conduits de distribution jusqu'aux rues et immeubles sont nécessaires, la fabrication ne se peut faire qu'avec des appareils construits dans l'intérieur de la ville. Parce que sinon, il faut des conduites de plusieurs kilomètres, c'est trop cher. Et en plus, ça peut créer aussi des fuites. Plus c'est long, plus il y a de risques de fuite. C'est trop cher, c'est pas rentable. Il est constant, il est donc évident, que si l'on adopte ce mode d'éclairage, la fabrication du gaz ne peut être rangée dans la première classe. Ce serait contradictoire de ranger une première classe et de l'autoriser en ville. Et donc, juste après, en novembre 1817, le ministère de l'Intérieur classe cette industrie en deuxième classe, donc possiblement établie dans le milieu des villes. C'est pour ça qu'on a eu des usines de gaz d'éclairage au milieu des villes tout au long du 19e siècle. Donc Paris devient une ville industrielle, très encouragée par les pouvoirs. À gauche, on a la visite de l'empereur en 1809. La toile est exposée au musée de la toile de Jouy, à Jouy-en-Josas. La toile peinte, hein, la toile imprimée sur cotonnette, c'est la grande fabrique d'Oberkampf. Ça, c'est la visite de Napoléon. À droite, c'est le service de la monarchie, de la restauration, qui a commandé à des grands artistes et des manufacturiers de créer un service de table pour le roi en l'honneur de l'industrie. Donc là, ça représente une verrerie avec des visiteurs qui visitent la verrerie comme spectacle, instruction ou admiration. Voilà, c'est ce que je disais aussi en introduction. Paris devient vraiment une ville industrielle avec une concentration ouvrière très importante. Alors, il faut se méfier un peu des enquêtes, hein, statistiques. Bien sûr, les chiffres sont parfois un peu biaisés, etc. Mais en gros, 1901, hein, après plusieurs décennies de développement, il y a pas loin d'un million d'ouvriers à Paris pour une population qui est de 3 millions, hein, banlieue comprise. Hein, l'agglomération, c'est 3 millions d'habitants en 1900. Donc un tiers de la population parisienne est ouvrière, hein, vraiment ouvrière. On a souvent l'image d'usine, on va voir des ouvriers assujettis à leurs machines, etc. Alors ça existe, mais ce n'est pas complètement ça. Paris, ce qu'on appelle, c'est la fabrique de Paris, c'est-à-dire c'est un ensemble d'ateliers très très diversifiés qui travaillent les uns avec les autres, donc avec une division des tâches très très importante. Hein. C'est ce que dit la Chambre de commerce dans son enquête de 1848, hein, puisque la division des occupations et le fractionnement des entreprises propres à l'industrie manufacturière constituent l'essentiel. Un premier industriel conçoit et dirige la création d'un produit, un grand nombre d'autres industriels s'offrent pour prendre à façon l'exécution de chacune des parties du travail. Hein. Donc il y a des commandes et puis plein de petits ateliers qui travaillent pour finalement l'entreprise finale. Hein. Quand on pense à un industriel qui a fabriqué tel produit, en fait, il y a déjà une division du travail et aussi des commandes à des ateliers indépendants les uns les autres qui a lieu à Paris, ce qu'on appelle la... Oui, c'est ça, la fabrique de Paris. En 1860, il y a l'exemple de la poupée qui est assez célèbre. Hein. Les différentes parties dont se composent les poupées sont encore à Paris l'objet d'autant d'industries spéciales. Ainsi, le corps de la poupée en carton ou en peau d'agneau bourré de sciure de bois, son buste en cire ou en plâtre, sa tête en porcelaine, ses bras, sa perruque, ses dents en paille ou en émail, ses yeux peints, sa lingerie, ses robes, ses souliers, ses chapeaux, ses gants sont fabriqués par des artisans qui n'ont aucun rapport entre eux. Hein, donc il y a une espèce de district industriel qui ont lieu et surtout ici dans le Marais et dans le 11e arrondissement, dans le Babelville, hein, où là il y a une concentration d'ateliers avec des savoir-faire très importants et puis... une espèce de fluidité hein, de ces savoir-faire, avec une grande adaptabilité aussi les uns avec les autres. Hein. Petite cartographie 1848 hein, de la localisation de ces ateliers qui a été réalisée par des enseignants du CNAM dans les années 1970, hein, à partir de fiches de statistiques. Prédominance des ateliers rive droite, hein, dans le Marais, et puis dans les faubourgs, dans les premiers faubourgs du Nord et de l'Est surtout. La même chose, mais ici, 1854, c'est un dessin qui a été pris sur croquis par Ballon, par Montgolfière, pour faire des plans aériens. Et puis après, évidemment, c'était terminé en atelier. Hein, mais donc, 1854, c'est pas très très longtemps après ça. Hein, c'est juste après, même la même période. Hein. Ce petit secteur du centre et du nord-est de Paris, hein, puisque vous reconnaissez, là, c'est la gare de l'Est. Ici, c'est la gare du Nord. Là, le canal Saint-Martin. Donc Bastille un peu plus bas, on imagine la Seine
un peu plus bas,
le boulevard de l'ancien Paris, et puis plus loin ici, tout au fond, le bassin de la Villette avec la colline de Montmartre ici, et puis on devine à droite, hors champ, la colline de Belleville. Hein. Et vous voyez toutes ces usines qui fonctionnent du côté de Bastille, et puis en remontant le canal vers les faubourgs du nord-est. Si on cartographie ça, quels sont les secteurs surtout industriels, notamment à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, hein. On a le secteur de Grenelle, autour de l'usine de Payen, avec des chaudronneries aussi, des distilleries, des raffineries de sucre. La Villette, raffinerie de sucre surtout, qui s'implante à la Villette, qui a été un bassin donc construit justement pour un but industriel, pour amener les matériaux, le bois, le charbon, le sucre, la betterave, pour faire du sucre de betterave. Mais aussi divers autres matériaux pour fabriquer plein d'autres choses. C'est là aussi que Félix Potin, hein, par exemple, s'est implanté, s'est développé. Donc c'est aussi de l'agroalimentaire. La Bièvre qui est toujours très industrielle. Et alors comment on explique ça? Plusieurs raisons. C'est beaucoup par les voies d'approvisionnement. Donc la Seine, bien sûr, sur laquelle donc beaucoup de bateaux, de péniches naviguent. Et le canal Saint-Martin qui était au début conçu pour amener l'eau potable aux Parisiens, et qui finalement, très très vite, a été utilisé pour juste des questions industrielles, avec la mise en place de beaucoup d'entrepôts le long du canal. Donc ce qui permettait de faire passer donc, les produits qui arrivaient du sud, en amont du sud-est de Paris, de les faire passer directement vers le nord, sans qu'ils fassent toute la boucle ici et arrivent à Saint-Denis. Donc ça les faisait passer directement là, vers la plaine Saint-Denis. Et puis ensuite, les chemins de fer. Avec la petite couronne ici, que vous connaissez sans doute, qui est désaffectée de nos jours, parfois ouverte pour la promenade, qui a été construite à des buts purement industriels. C'était pour distribuer les produits pour toutes ces usines, et elles étaient connectées aux gares, c'était que des réseaux privés. les industriels construisaient leur propre réseau de leur usine et se raccordaient sur la petite ceinture. Donc ça permettait de distribuer ces matériaux. Donc l'approvisionnement, l'expédition des produits, évidemment, c'est essentiel pour les industriels. Donc ça, c'est la Bièvre, avec une cartographie que j'ai réalisée de l'état des usines en 1822, surtout des tanneries, des teintureries, mais de plus en plus de blanchisseries aussi, ou des industries de la chimie. Bertoli, il avait son usine notamment de chlore, d'eau de Javel en fait, un peu au sud de ce que j'ai cartographié là. Et puis une peinture, des peintures de la Bièvre, elles sont assez nombreuses et célèbres. L'autre secteur de la Villette, ça c'est Isabelle Bacouche qui a réalisé cette carte, où on voit à la fois les transports ferroviaires en vert. En bleu, c'est les réseaux des canaux. Et puis il y a les routes aussi qui ne sont pas négligeables, puisque l'état de la chaussée a beaucoup progressé au 19e siècle pour le transport des marchandises par charrette. Avant la voiture, il y a eu un gros progrès de circulation aussi par route. Et on voit donc le bassin de la Villette qui est connecté, mais vraiment à la fois aux gares, au réseau Canal de l'Ourcq, Canal Saint-Denis, qui était donc forcément un lieu très très propice à l'industrie. Et notamment à l'industrie vraiment nauséabonde, insalubre, avec beaucoup d'usines à gaz, des grosses usines à gaz, avant celle de Saint-Denis, et puis les dépotoirs, les abattoirs, bien sûr les abattoirs de la Villette, la grande halle de la Villette, que 1867, je crois qu'elle a été ouverte, tout le traitement des matières animales, des usines à goudron qui étaient pas loin des usines à gaz, puisque un des sous-produits de l'usine à gaz, c'est du goudron, du bitume. Ça servait donc ensuite à asphalter les routes, en fait, c'est le début du goudronnage des routes. Les mutations, par exemple, c'est l'usine Caille. Alors, Caille et Desrônes, c'est un grand industriel du 19e siècle, parisien, un des plus gros industriels, qui était implanté au début à Chaillot. C'est lui qui avait repris l'usine Perrier de machines, outils, qui ensuite, par manque de place à Chaillot, se transfère sur la plaine de Grenelle en 1874, et là il reçoit la visite d'une représentation du gouvernement à droite. Enfin, ce sont des illustrations. Je me demande si je ne les ai pas prises dans l'illustration, justement. Et puis, un secteur sur lequel j'ai un peu travaillé, mais ça, c'est pas moi qui ai fait les cartes, c'est le quartier de Bastille, et puis après du Bas-Belleville, où là, des districts industriels, notamment Bastille, Faubourg Saint-Antoine, qui était un secteur de l'ébénisterie, de la menuiserie très important, sur lequel sont greffés plein d'ateliers de la métallurgie, parce que quand on fait des meubles en bois, il faut beaucoup de métal aussi, des vis, des clous, des charnières, etc. Encore de nos jours, la carte à droite, c'est une carte qui a été réalisée en 1999. Il y a énormément de bâtiments qui existent encore, même si beaucoup ont été détruits. Tous ceux qui sont en noir, là, ce sont les anciennes cours et les anciens bâtiments industriels du 19e siècle qui ont été inventoriés par l'inventaire général à la fin du 20e siècle. Il y a eu un livre comme ça sur l'inventaire industriel du Faubourg Saint-Antoine. Voilà le type d'atelier que l'on trouve fréquemment, c'est-à-dire des grandes halles métalliques. Alors ça, c'est à partir plutôt de la deuxième moitié du 19e siècle, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on arrive à fabriquer des grandes portées métalliques qui remplacent le bois, à partir de 1845 notamment, et notamment après une grève de menuisiers, charpentiers, très importante, qui leur a joué un mauvais tour finalement, parce que les industriels du fer en ont profité pour proposer des charpentes métalliques. Une grève très très importante qui a empêché un certain nombre de constructions et qui a incité des constructeurs à se tourner vers le métal, notamment. Bon, ça aurait eu lieu sans doute, même sans la grève. Mais on voit le type d'ateliers qui se sont construits dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ou un autre ici, là on est en 1860, je crois, d'un atelier de menuiserie dans le faubourg Saint-Antoine. Ça, c'est une toile qui est au CNAM. Ça, c'est une scierie mécanique du faubourg Saint-Antoine. Alors, la coexistence de la ville et de l'industrie, elle a fini par s'établir dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Elle a pu faire l'objet de représentations un peu plus originales, on va dire. Vous voyez ici, je ne me souviens plus dans quel secteur on est, mais je crois qu'on n'est pas loin du faubourg Poissonnière. Représentation de 1840, où on voit une cheminée qui fume à côté d'une église. Ça, ce sont des dessins d'artistes qui n'avaient pas pour objet l'industrie, mais qui avaient pour objet de représenter la ville. Ou cette représentation des années 1820 de l'usine Powell's, justement, de gaz d'éclairage, Powell's, dans le faubourg Poissonnière, au pied de la butte Montmartre, qui était très loin, en 1820 encore, qui était là ici un petit exercice d'étude pour les étudiants des beaux-arts. quelque chose d'assez encore pittoresque, on pourrait presque dire, en tout cas sous le pinceau des élèves artistes. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était ça, quelque chose que j'aime bien, c'est un document, un plan d'archives que j'ai retrouvé, 1825, pour vous montrer comment la ville a fini par s'installer. Ici, c'est un plan qui a été dessiné par le voisin de l'usine textile, puis ensuite surtout raffinerie de sucre de Delser, Benjamin Delser, que vous connaissez peut-être de nom. C'était le fondateur des caisses d'épargne, hein, un grand philanthrope, un botaniste au départ, qui ensuite est devenu vraiment industriel. Là, on est sur le site de Radio France. Hein. Donc au départ, il avait récupéré un ancien couvent qu'il a transformé en usine textile, puis ensuite en raffinerie de sucre. Et ce voisin, qui s'appelait Dascol, il était un peu gêné par son usine. Et il a porté plainte, il a poursuivi cet industriel de nombreuses fois en justice. Au départ, donc c'était dans cette maison-là, enfin selon le dessin du voisin. Hein. C'est rare qu'on trouve un plan figuré, surtout d'un opposant, en 1825, hein, sitôt. Le bâtiment A, c'est l'usine construite avant le décret de 1810, 1802 ou 1804, par Delser, Benjamin Delser. Le décret dit que tous les établissements qui ont été construits avant ne sont pas concernés par la loi. Ils peuvent rester. C'est le principe d'antériorité. Dascol, lui, il est à droite du dessin. On voit son nom. Il est marchand de vin, négociant en vin. Puis ensuite, Delser s'est agrandi. Il a construit plusieurs fourneaux. Donc au départ, c'est ici en B, deux fourneaux. Puis en C, il en a construit trois autres. Et puis en D, six autres. Et petit à petit, il a entouré la propriété de Dascol. Ce voisin s'est retrouvé encerclé par une usine qui dégageait beaucoup de fumée. Il y a des rapports de visite, hein, très nombreux, qui sont encore consultables en archives, où on voit que la propriété de Dascol, en fait, elle est sous les suies de cette usine. En fait, elle ne peut plus vivre. Et donc, il a fait de nombreux recours, et à l'appui de ses recours, il a dessiné ce plan. Plusieurs voisins donc ont attaqué Delser en justice, puisqu'ils n'ont pas réussi à fermer l'usine. Donc, en fait, en justice, Delser a été condamné à indemniser les voisins, mais sur des sommes en fait qui ne le gênaient pas lui. C'était une somme, enfin vous savez qu'un industriel souvent il provisionne les dégâts qu'il fait à ses voisins. Pour certaines usines chimiques, c'est à peu près 1% de ses frais. Il le sait, il le met dans son compte d'entreprise, hein, c'est 1% des dommagements aux voisins, et il sait qu'il doit en tenir compte. Donc il y a eu ça, et puis en 1830, Dascol parvient quand même à ce que l'enquête administrative ordonne la fermeture de l'usine. En 1830, le Conseil d'État ordonne à Delser de fermer son usine, parce qu'il y a trop de nuisances. Et puis, finalement, l'arrêté du préfet n'est pas appliqué. Delser continue à fonctionner. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, tout simplement, il a acheté les propriétés voisines. Et il a fini par obtenir une parcelle de 4 hectares. 4 hectares en ville, c'est beaucoup, hein? 4 hectares et dans laquelle, en fait, il a pu continuer à fonctionner. Il n'avait plus de voisins, du coup, et il avait un parc tout autour de... Il y a des représentations qu'on peut trouver sur Gallica, du parc de Delser. Un parc qui le permettait, en fait, un espèce de glacis défensif par rapport au voisinage. Alors, il se trouve qu'ensuite, en 1836, Gabriel Delser, son frère, est devenu préfet de police. Ça l'a facilité. Il a pu réinstaller une nouvelle machine à pain en 1837, assez facilement. Mais bon, ça, c'est pour la petite histoire. Je vous montre juste, c'est la maison des métallos sur laquelle j'ai beaucoup travaillé aussi avant de faire ma thèse sur les pollutions, où on retrouve ce genre de parcelles, d'établissements usiniers. Cette maison, elle est construite sur une parcelle qui est ici, c'est une parcelle 1866 qui était un charpentier. Donc on est vraiment dans les faubourgs assez peu urbanisés, hein, 1860 encore, hein, qui s'urbanisaient justement, et la famille Quénon, Gautreau Quénon, hein, qui a acquis la parcelle et qui a donc construit cette grande manufacture d'instruments de musique, qui a remporté de nombreux prix, médailles d'or aux expositions universelles, qui a vendu beaucoup d'instruments de musique aux États-Unis notamment. Donc construit tout ce bâtiment, des bâtiments de rapport sur rue, de location ici, puis cette usine, hôtel industriel plus halle de fabrication en fond de parcelle. Donc un système usinier urbain, où il y a une mixité des fonctions en fait, où on peut rentrer facilement dans l'usine en fait, puisque au rez-de-chaussée de l'hôtel industriel, c'est un magasin de vente justement. Donc l'idée, c'était justement de faire venir les clients dans l'usine pour leur montrer. Et cette usine, elle donne ça. Ça, c'est une photo de 1937 quand la CGT a racheté les lieux. Vous voyez ce genre de bâtiment à deux étages avec une coursive et puis une grande verrière au-dessus. Aujourd'hui, le bâtiment a été partiellement transformé, mais on peut monter encore dans l'ancienne verrière qui a été rénovée il y a une quinzaine d'années. Et là, on voit en 1910 cet atelier de fabrication d'instruments de musique en cuivre, hein, qui reprend la tradition du savoir-faire des artisans de cuivre du Babelville, hein, du Faubourg Saint-Antoine aussi. Depuis plusieurs décennies, l'usine a été construite en 1881, avec donc aussi cet exemple d'industriel qui finalement mettait Paris à l'honneur. Il a été accueilli par le président des États-Unis, c'est ce qu'on voit ici sur l'illustration. Il a été photographié par Nadar, enfin, là c'est un de ses enfants qui a été photographié par Nadar. Donc ces industriels qui étaient très célèbres et qui faisaient rayonner Paris, une ville manufacturière. Finalement, j'ai dans l'exposition qu'on avait mise en place il y a une dizaine d'années, puis une photo que j'aime bien en fait, parce que c'est une carte postale qui représente une usine avec un ouvrier qui écrit à son correspondant et qui met l'usine où je travaille. Hein, il y a une espèce de fierté là, de montrer l'usine où il travaille. Paris, ville industrielle, donc j'ai pas surtout parlé des nuisances, mais ça a été aussi la fierté de tous ces artisans, de tous ces ouvriers hein, qui vivaient de leur emploi et qui fabriquaient des choses avec leur savoir-faire. C'est toujours l'ambivalence de se dire... c'est chouette de produire, ces usines, même elles sont belles. Et en même temps, elles ont apporté beaucoup de nuisances. Hein, donc cet équilibre à trouver. Après, c'est intéressant de voir un petit peu comment ça s'est mis en place avec les débats. Il y a eu des débats incessants, en fait. Hein, on voit qu'il y a des rapports de force, on voit qu'il y a des décisions qui ont été prises. Et on voit que parfois, il y a une espèce de basculement, comme en 1810. Hein, voilà. Vous avez parlé.
Vous avez parlé de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Nous avons eu ici une conférence sur ce sujet qui se trouve en ligne sur le site de la Bibliothèque des Amis de l'Instruction.
Pour revenir à la bibliothèque, Benjamin Delessert, c'est lui qui a fait les premiers textes pour installer des bibliothèques populaires pour les ouvriers dans tous les arrondissements de Paris. Et quand les gens qui ont créé la bibliothèque ici racontent l'histoire des bibliothèques, ils se réfèrent toujours à Benjamin Delessert. D'autre part, ce que vous dites sur le droit qui défend l'industrie, c'est toujours vrai maintenant. Si vous prenez l'exemple de l'industrie pharmaceutique et du Mediator, le laboratoire a été condamné à 9 millions d'amendes, a rendu 400 millions à la sécurité sociale et aux mutuelles, mais les parties civiles voulaient qu'on rende 200 millions, c'est-à-dire que Servier rende le bénéfice qu'il avait fait. Et le juge dit tranquillement non, parce que ça va mettre en difficulté l'entreprise et on va voir ce que la cassation dit, parce que ça paraît sidérant que, alors qu'ils ont été jugés comme étant des escrocs ayant vendu un produit défectueux et d'homicide involontaire, on leur laisse le bénéfice.
Oui, le pollueur-payeur, c'est normal, quoi.
Ben, le profit est pour l'entreprise et le risque redevient collectif pour tout.
Alors, dès les années 1820, les entreprises avaient compris ça. Et donc, elles mettaient dans leur plan de gestion à peu près 1% de frais de dédommagement des voisins. De nos jours, forcément, il y a toujours quelque chose qui est provisionné pour les contentieux, pour les recours juridiques et puis pour les indemnisations. Il y a une forme d'impunité industrielle qui a été mise en place en France en 1810 et ensuite en Europe, puisque le continent européen a repris cette législation hein, après l'Empire napoléonien. Et code civil, code pénal et loi de 1810 a été conservé en Europe. Et l'Angleterre a fini par adopter cette logique à partir des années 1860. Et donc il y a une forme d'impunité parce que les pollutions qui étaient considérées comme dangereuses pour la santé publique elles sont considérées comme un mal nécessaire à l'industrialisation, à la prospérité. Donc, à partir de là, juridiquement, c'est très difficile d'attaquer un industriel, puisque les industriels, finalement, relèvent du droit administratif et non plus du droit pénal, alors qu'un individu qui altère la santé publique, normalement, il est passible de poursuites pénales. Ce n'est pas le cas pour l'industriel. À partir du moment où il rentre dans le cadre des conditions d'autorisation, et les conditions d'autorisation sont déterminées juste par l'administration. Et l'administration tolère une pollution à partir du moment où elle n'atteint pas des mesures ou des doses qu'elle-même définit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pollution, ça veut dire qu'on accepte un certain niveau de pollution et que dans ce cadre-là, l'industriel est protégé. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Finalement, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est une période courte et exceptionnelle. L'avenir, personne ne sait de quoi il sera fait. Mais... Et effectivement, de nos jours, aujourd'hui, on n'est pas dans un retour à des mesures coercitives vis-à-vis de l'industriel pollueur. Parce qu'on est tous plus ou moins engagés dans cette histoire par nos modes de vie déjà. C'est très compliqué d'en sortir. Et puis, juste pour terminer, le pénal revient un peu hein, quand même depuis 30-40 ans. La loi de 1976 sur les établissements qu'on appelait maintenant ICPE, hein, installations classées pour la protection de l'environnement, a réintroduit le pénal pour un certain nombre de choses que je ne détaille pas ici parce que ça serait un peu long, mais ça redevient possible de poursuivre un industriel au pénal, notamment si il est constaté qu'il a été au-delà de ses conditions d'autorisation.
On parle souvent de ces vaisseaux, hein, par exemple, quand il y a eu une grande catastrophe à Rouen,
qui a été brisée.
Alors on rentre toujours dans cette même logique, c'est-à-dire que du moment que ça a été fait dans des autorisations, l'industriel, il risque pas grand-chose au pénal, si je comprends bien.
Alors là, juste pour Lubrizol, c'est intéressant parce que alors, d'une part, là où l'incendie a eu lieu, c'est dans le dépôt qui est juste à côté et le préfet venait d'autoriser par deux fois en janvier et en juin d'augmenter les stocks. Et ce qui était très intéressant, c'était en janvier 2019 et ça faisait suite à la loi ESSOC de août 2018 qui disait que en cas de, non pas de nouvelle installation, mais d'augmentation des capacités des installations déjà présentes, le préfet pouvait donner l'autorisation sans évaluation environnementale. Parce qu'il faut une évaluation environnementale normalement. Et depuis 2018, c'est plus nécessaire. Donc le préfet a autorisé deux fois l'augmentation des stocks grâce à la loi de 2018, la loi ESSOC, et c'est là que ça a pris feu. Alors, il était dans le cadre de ces autorisations, encore que là, il y a une instruction pénale hein, actuellement, parce que l'État a considéré, et je pense que c'est aussi pour dire que la régulation normative normale, elle est bonne, mais que c'est l'industriel qui est fautif. Donc, l'État, finalement, est très intéressé pour que l'industriel soit condamné au pénal parce que c'est une façon de dire que ce n'est pas de notre faute. C'est de la faute de l'industriel. Parce que là, il y a eu un accident suffisamment grave, en fait, pour caractériser. Et donc, il y a une instruction, effectivement, pour manquement ou conditions de sécurité. Et donc, ça relève du champ pénal.
Est-ce qu'il reste des activités industrielles à Paris ?
Il y a l'usine Claire Fontaine, par exemple, qui est sur le canal Saint-Martin, qui est la plus grosse...
Qui fonctionne encore ?
Ouais. À ma connaissance, c'est la plus grosse usine à Paris. Malheureusement, l'industriel n'autorise pas des visites. Enfin, on a déjà essayé, mais... Non, après, il y a des ateliers de fabrication. Il existe encore des imprimeries, des artisans qui emploient parfois plusieurs personnes, en fait. Alors, il y a encore beaucoup d'ateliers. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns.
Oui,
mais il n'y a plus vraiment d'usine. Hein. Il n'y a plus vraiment d'usine, tel qu'on l'entend.
En termes d'effectifs ouvriers, ça représente quoi?
Moi, je ne sais pas trop... Il y a eu un rapport de la ville de Paris qui s'appelait « Réindustrialiser Paris » ou quelque chose comme ça. Il y a une dizaine d'années, je crois qu'il est public, il doit être sur le site de la ville.
Mais pour en revenir à Chaptal, le fait qu'on puisse mettre les poudreries dans la ville, il y a eu des discussions, on a des informations là-dessus, il y avait la guerre.
Alors les poudreries, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1810, les poudreries ont été exceptées du décret. Elles ne font pas partie de la nomenclature. Pourquoi ? Parce que c'est une industrie de guerre et que ça relève du ministère de la guerre et pas du ministère de l'intérieur. Et donc là, c'est d'intérêt national. Tout ce qui est munitions, c'est pareil. Par exemple, il a été construit une usine de munitions sur le site de Grenelle, sur le site de la poudrerie au 19e siècle, qui a explosé pendant la Commune aussi. Ici, là à gauche, c'est en 1871, l'usine de munitions de Grenelle, qui était construite sur l'ancien site de la poudrerie. Mais toutes ces usines, elles ne relèvent pas de la loi 1810. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête publique, c'est le gouvernement avec le ministère de la Guerre qui décide de construire une usine de munitions à tel endroit, il n'y a pas de recours possible. En fait, il y en a des recours, mais c'est plus compliqué. C'est d'intérêt national, alors surtout en cas de guerre. Les poudreries sortaient du dispositif. Avant et ensuite, encore après, hein, au 19e siècle, elles se sont retrouvées à la campagne. C'est-à-dire que jusqu'à l'invention de la dynamite et des poudres modernes hein, à la fin du 19e, la seule poudre d'artillerie, c'est la poudre noire. Elles sont construites vraiment en dehors des habitations. Celle d'origine, c'est à Essonne, pas loin de Corbeil-Essonne, mais dans la campagne. Et puis, il y a eu celle qui a été construite dans les années 1860. C'est vraiment la dernière génération des poudreries de poudre noire. C'est à Sevran. D'ailleurs, allez-vous promener au parc de Sevran, parce que la poudrerie de l'époque, elle est toujours en place. Et vous verrez d'ailleurs entre les bâtiments des talus qui séparent les bâtiments les uns des autres, parce que comme elle était à la campagne et qu'elle a été construite en temps de paix, les bâtiments sont séparés les uns des autres et protégés les uns des autres en cas d'explosion. C'est intéressant d'ailleurs à Chevron parce qu'il y avait tout un débat pour savoir si on pouvait utiliser la machine à vapeur dans les poudreries à cause de la chaleur et de l'action mécanique aussi qui pouvait faire des étincelles ou échauffer les machines. Et en fait, finalement, elle a été construite avec une machine à vapeur. Il y a un bâtiment central avec une machine à vapeur Et ensuite, les courroies et câbles de transmission partent sur des dizaines de mètres pour faire tourner des machines dans d'autres bâtiments tout autour, des axes rayonnants. Donc il y a le bâtiment central, puis plein de bâtiments autour, comme ça. Et c'était relié par des câbles aériens. Ça faisait tourner des machines dans les bâtiments de mélange des poudres. Alors il y a un petit musée de la poudre à Sevran qui est ouvert de temps en temps, il faut regarder les horaires. Et puis sinon, il y a un parc public, il y a un petit restaurant. C'est assez agréable pour les beaux jours le long du canal de l'Ourcq d'aller se balader là-bas, partir à vélo de Paris, et puis 15 km. Alors jusqu'à la fin du 19e, il y a toutes ces poudreries qui sont dispersées en France. Par exemple, celle d'Angoulême. Il y a encore les bâtiments qui sont un peu en ruine, mais qui on peut rentrer dedans et tout ça. Il y a une dizaine, 10-15 poudreries qui fonctionnent par intermittence. Parce que comme la poudre noire, c'est très instable. Quand c'est la paix, qu'il n'y a pas vraiment de guerre prévue, etc., il n'y a pas trop de production. Et puis en cas de guerre, tout d'un coup, les poudreries se remettent à fonctionner. Il ne faut pas que les stocks soient trop gros, en fait. Parce que c'est instable dans le temps. Hein. Donc, en fait, ce qui explose, c'est surtout les dépôts. Les sites de fabrication sont très contrôlés, mais les dépôts, ça peut... une flamme, tout simplement, un éclair, ça peut exploser. Ouais. Enfin, au 19e siècle, ça explose encore, d'ailleurs.
AZF, ce n'est pas une poudrerie.
Ah non, AZF, c'est de l'ammoniac, nitrate d'ammoniac, fabrication d'engrais. Bah, AZF, c'est intéressant parce que c'était une usine construite en dehors de la ville, au départ, entourée par l'urbanisation. Et là, l'industriel, il n'a pas été sommé de partir. Bon, ben, ça a tué quand même, je sais plus, une trentaine de personnes, hein, avec des gros dégâts autour. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, après cet accident d'AZF, en 2003, il y a eu la loi Bachelot. Elle était ministre de l'Industrie à l'époque, et ça a abouti au PPRT, Plan de Prévention des Risques Technologiques. Et cette loi, en gros, ce qu'elle prévoit, c'est non pas de déplacer les industriels, mais c'est de déplacer les habitants qui sont près des industriels. Ben, c'est plus simple, sans doute. Les PPRT, ça existe encore et c'est très compliqué parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, sur le PPRT du Havre. Parce qu'au Havre, il y a une grosse zone industrielle, mais elle s'est construite aussi en coexistence avec des zones pavillonnaires des années 30 à 40, 50, dans le bas du Havre. Et là, il y a eu beaucoup d'expropriations avec indemnité, hein, bien sûr, il y a tout un système. Mais c'est très, très compliqué de faire partir des gens d'un lieu, hein, de les reloger ailleurs. Ça coûte un peu d'argent aussi. Et puis, c'est toute une histoire qui s'en va, c'est toute une vie, c'est des souvenirs, etc. Donc, il y a eu des études de fait. C'est assez traumatisant. La plupart des PPRT n'ont pas réussi parce que c'est très compliqué.
En tout cas, merci beaucoup.
Merci.